Bonjour Ludo.
Bonjour David, salut à tous.
Alors tu nous réchauffes ce matin à la lueur de la flamme et cette chaleur si particulière du bois. Tu nous parles de la valorisation du bois sur notre...
Oui, on va essayer de vous réchauffer aujourd'hui et réchauffer Jacqueline aussi, hein, si elle nous entend, la bise à elle. Donc je souhaite vous proposer en fait un cycle de chroniques sur l'énergie renouvelable en agriculture. C'est un enjeu fort depuis quelques années. Donc au-delà de nourrir la population en fait, aujourd'hui on est incité à produire ce qu'on appelle de l'ENR, des énergies renouvelables. Et du coup participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc parler d'énergie a du sens hein, dans un contexte où les prix de l'énergie flambent, que nous souhaitons développer notre indépendance énergétique au niveau national et créer un mixte énergétique dans lequel les énergies renouvelables issues des fermes auront toutes leurs importances. Et donc, après la méthanisation la semaine dernière, aujourd'hui, je vous propose ce qu'on appelle le bois énergie.
Allez, c'est parti, attention aux embûches, Ludo.
Allez, donc le bois énergie, hein, il bénéficie d'une bonne image auprès des particuliers. C'est peut-être l'une des seules ENR à ne pas être controversée comme peut l'être la méta, le photovoltaïque ou les éoliennes.
Bois énergie, on y met quoi dedans en fait?
Alors en fait, ça désigne l'utilisation des bois à des fins énergétiques. Hein. Et essentiellement pour le bois, pour se chauffer et non une finalité électrique. Donc le bois qu'on retrouve dans nos haies, dans les forêts ou déchets de l'industrie du bois. Hein. Vous avez le bois bûche, le bois déchiqueté pour les chaudières comme à Noël les Obé par exemple. Ou les granulés essentiellement utilisés par les particuliers. Donc ça représente environ 65% dans la production des énergies renouvelables pour un usage thermique. Donc ça c'est selon l'AREC, c'est l'Agence Régionale d'Évaluation de l'Environnement et du Climat. Donc c'est pas toujours facile de savoir qui chauffe avec du bois et quel volume, et notamment les foyers avec des chauffages mixtes notamment.
Voilà. Tout le monde ne chauffe pas avec les mêmes outils, Ludo, sur le territoire je suppose.
Oui.
Notre bocage est bien pourvu en haie, les sites plus urbains sont sûrement moins concernés.
Oui tout à fait, en fait par exemple pour le Grand Bressuire, donc avec toutes les communes associées, l'Observatoire de l'AREC lui estime à 17% les utilisateurs de chauffage au bois. Alors c'était pour 2018, il n'y a pas eu d'observatoire depuis. Sachant que la dynamique de vente est toujours active hein, dans les poêles à bois, mais en repli tout de même depuis 3 ans. Donc par hasard, hein, on va dire comprend pour notre ami qui nous écoute, c'est 27% d'utilisateurs. La Chapelle Saint-Étienne, un pays plus bocager, on est autour de 43% et le champion se situe dans le sud du département, à Asnières-en-Poitou, 66%. Donc les agglomérations, hein, comme tu le disais David, Niort et Parthenay, c'est que 3% d'utilisateurs du chauffage au bois.
Bon, on les salue tous au passage. Alors il y a des objectifs normalement à respecter avec la loi énergie-climat. Ouais. Est-ce que nous sommes de bons élèves?
Ben, on pourrait noter hein, sur le bulletin, on doit continuer ses efforts. Nous sommes bien lancés au niveau départemental et régional, hein, Nouvelle-Aquitaine, dans le sens où l'on se situe au-dessus de l'objectif fixé qui était de 23% de ENR dans la consommation finale totale des énergies en 2020. Donc nous, on arrive à 25%. Le national, on est autour de 21%. Donc l'objectif est de 32% en 2030 dans la loi. Le SRADET, donc c'est un schéma régional d'aménagement et développement durable des égalités des territoires, a donné pour objectif 50%, lui, en 2030. Donc ça, au niveau régional essentiellement. Donc là, il y aura deux leviers. Il faudra diminuer nos consommations et développer le renouvelable. Pour la filière bois, on compte sur de meilleures performances de matériel, de chauffage hein, essentiellement, avec un meilleur rendement donc, tout en gérant nos ressources de bois locaux sur un plan déjà défini.
Il faut gérer sur le temps, Ludo, on dit que les forêts grandissent en France, est-ce que c'est vrai?
On le dit souvent et c'est vrai en plus, donc les chiffres le disent, donc ça c'est vrai en France, mais au niveau mondial, avec la déforestation en zone tropicale, la surface des forêts diminue. Donc chez nous, en fait, on exploite moins de bois qu'il en pousse dans une année. Il faut quand même savoir, c'est qu'on en importe du bois de chauffage pour les granulés notamment. Donc référez-vous au label PEFC ou FSC, qui est encore plus drastique au niveau des cahiers des charges, pour être certain de consommer du bois issu de forage géré durablement. La solution la plus locale, hein, c'est de consommer du bois auprès d'un agriculteur que vous connaissez déjà.
Chez toi, par exemple?
Ouais, exactement. Ou d'un propriétaire privé, puisque 90% des bois chez nous sont privés. Eux, les exploitants hein, qui détiennent cette capacité à faire du bois, ont développé des techniques pour valoriser cette ressource dans les haies, qui au fil des années, c'est vrai, était devenue assez contraignante hein, pour eux, notamment avec l'agrandissement des exploitations. Aujourd'hui, David, on entretient les haies à la pelleteuse.
Ça paraît brutal. On arrache, tu veux dire?
En fait, on entretient vraiment, mais la pelleteuse, elle est équipée d'une tronçonneuse et puis d'un grappin qui va déposer le bois coupé proprement sur le champ. Et ensuite, du coup, on peut faire nos petits rondins.
Sans risque, c'est pas négligeable, hein, puisque tous les ans, il y a des accidents ouais. liés au bois à la campagne.
C'est sans risque, sans blessure, sans mort aussi. Et le côté physique est beaucoup moins pénible pour l'agriculteur ou pour ceux qui font du bois, les particuliers. Donc la taille des haies, elle est mécanisée hein, depuis longtemps. Et ensuite, les exploitants, du coup, pour rembourser et investir dans ces matériels qui sont assez chers à l'achat, ils se sont regroupés à l'intérieur de Cuma. Hein. Et alors, il y a des déchiqueteuses qui ont vu le jour aussi, où ils vont broyer les tailles de l'année. Donc pour faire du bois de plaquette, du BRF que vous avez peut-être déjà entendu parler, ou du bois déchiqueté qu'ils pourront ensuite vendre. Certains s'en servent aussi pour pailler leurs animaux et économiser du coup de la paille achetée. La rentabilité forcément elle est d'autant plus forte que le prix de la paille est élevé comme l'année dernière. Il y a encore un très peu de surface consacrée à la culture de bois type saule ou peuplier avec des rotations de 3 à 8 ans. C'est du bois qu'on va pouvoir cultiver en fait.
Alors moi je me pose une question, je suis sûr que tous les auditeurs se posent la même question. Quel bois chauffe le mieux ?
Ouais, bah ça en fait on parle de pouvoir calorifique du bois. On va en parler mais ramené au sterre pour un même volume. Un sterre c'est 1 mètre cube, que tout le monde soit d'accord. Donc les bois qui chauffent le mieux avec un meilleur pouvoir calorifique, c'est bien le hêtre, le charme, le frêne, le chêne ou l'acacia. Donc ce sont des essences du bocage. Ça chauffe très bien. Les conifères, eux, ils vont brûler plus vite et ils pèsent moins lourd. Donc, il vous en faudra un plus grand volume pour avoir la même chaleur. Donc, ils sont moins efficaces pour maintenir une température régulière au sein de la maison. Alors, le plus important, au-delà de l'essence du bois que vous allez choisir, c'est de respecter le taux d'humidité de votre bois. Il faut atteindre 10 à 20% maximum d'humidité. Plus il est humide, moins le rendement sera bon et plus vous polluerez l'air avec des particules rejetées. Donc, globalement, il faut le faire sécher 2 ans pour être sûr de votre travail.
Bah ok, merci Ludo, si je comprends bien la logique, hein, pour que la part des énergies renouvelables augmente dans notre mix énergétique, il faut les développer, mais on peut aussi essayer de réduire notre consommation.
Voilà, exactement, et les objectifs en tiennent compte, donc faites attention et n'oubliez pas que la première énergie qui ne pollue pas, c'est celle que l'on peut éviter de consommer.
Bah merci Ludo.
Merci, ciao à tous, bonne journée.